Eh bien, nous allons parler aujourd'hui de véhicules hybrides. Eh oui, certains véhicules sont visiblement dépassés, d'autres sont des véhicules d'avenir. On va faire le point sur ces technologies aujourd'hui avec Monsieur Alain Bousquerolles, qui est professeur à l'Université Lille. Hein. Bonjour Monsieur Bousquerolles.
Bonjour.
Donc, ces véhicules de l'avenir, c'est déjà maintenant ?
Alors, il y a déjà des premiers véhicules qui roulent avec ces nouvelles technologies. Le plus célèbre, c'est la Toyota Prius, qui permet des réductions d'émissions polluantes de manière assez importante et surtout de consommation. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour passer du véhicule thermique aujourd'hui au véhicule plus électrique. Mais on a beaucoup de constructeurs automobiles qui se lancent dans des prototypes et on travaille intensément sur l'amélioration de ces véhicules.
Vous parliez d'une marque précise tout à l'heure. Est-ce que tous les pays sont au même niveau, j'allais dire au même point, concernant ces technologies ?
Il est clair que l'Asie est en avance, parce qu'elle a lancé des études il y a une dizaine d'années. Donc là, on commence à avoir des véhicules qui ont une certaine maturité dans ces technologies-là. L'Europe y va beaucoup plus progressivement. Donc on parle d'alterno-démarreurs, c'est des véhicules qui permettent d'arrêter le véhicule au feu rouge, etc. Donc ça c'est un premier pas, mais beaucoup plus lent. Donc c'est Citroën qui l'a fait, on commence à le généraliser à PSA. Donc il y a une démarche beaucoup plus lente et beaucoup plus progressive en Europe qu'en Asie, où il y a eu un saut technologique important.
Alors quand on dit l'Asie, beaucoup de pays en Asie, là où on parlait un peu du Japon, la Corée, la Chine, c'est à peu près pareil ?
Alors le Japon a été précurseur, c'est clair. Il faut savoir que la Chine est en train de mettre des moyens très très importants dans ces nouvelles technologies, en particulier les véhicules électriques qui se développent très fortement.
C'est vrai qu'en allant en Chine, j'étais déjà surpris de constater qu'il y a beaucoup de vélos moteurs électriques là-bas, alors qu'ici, bon, c'est pas encore trop répandu.
Des vélos moteurs ou même des vélos assistance électrique.
C'est ça, oui.
Je pense que la dernière fois que j'y étais, ils estimaient qu'au niveau des ventes, il y avait autant de vélos assistance électrique que de vélos classiques.
Pourquoi notre retard ?
Je pense qu'on avait des constructeurs automobiles très forts, très engagé sur le diesel, donc avec une consommation moins forte. Il faut savoir que le diesel, il n'y a qu'en Europe qu'on a véhicule diesel, pas en Amérique, pas en Asie. Et le fait qu'on ait une consommation moins importante en diesel a retardé le fait de changer de technologie, puisque la consommation était plus faible qu'ailleurs.
Résultat, on est en retard.
Résultat, on est en retard. Mais je pense que la philosophie européenne, PSA, Mercedes, etc., est une philosophie qui va beaucoup plus progressivement. Je pense que c'est plus adapté aussi au changement qui va devoir s'opérer. On ne va pas passer d'un véhicule ou d'un parc de véhicules tout thermiques très rapidement à un parc électrique. Et je pense qu'on a peut-être des atouts pour cette transition progressive.
Donc, évidemment, les véhicules actuels, on ne pourra pas les recycler aussi.
Oui, c'est une grosse problématique. Diverses études envisagent d'avoir un parc électrifié, soit électrique thermique, ce qu'on appelle hybride, de 10% en 2020. Donc, ça va être très, très progressif. Cependant, il y a, notamment en Amérique du Nord, des études qui montrent qu'on peut électrifier des véhicules actuels. Et il y a une grosse campagne en Amérique du Nord sur les bus scolaires, les bus jaunes, qui sont diesel et qui polluent beaucoup, qui sont en train de les électrifier, de les hybrider en fait. Donc on peut penser qu'il va y avoir aussi des actions sur l'hybridation de véhicules plutôt lourds actuels.
Alors dans notre région Nord-Pas-de-Calais, il y a beaucoup de constructeurs automobiles. Bon, c'est parfois un peu la crise aussi pour eux. Est-ce que cette solution technologique, c'est une façon d'aller de l'avant et de développer des marchés, des parts de marché ?
Oui, et il y a une entreprise dont je ne me rappelle pas le nom à Calais, qui fait des petits véhicules électriques qui a Bon, évidemment, le véhicule électrique, le gros problème, c'est son autonomie. Kia proposé ce qu'on appelle un range extender, c'est-à-dire un véhicule électrique avec un petit moteur thermique qui va recharger de temps en temps la batterie, pour assurer une autonomie ou une sécurité vis-à-vis de l'usager beaucoup plus importante. Et je pense que c'est en train de se développer, cette entreprise, parce qu'il offre un produit assez novateur et qui va assurer une transition progressive aussi.
Donc ces entreprises innovantes, est-ce qu'elles sont appuyées, voire en amont même, par une recherche qui se fait en région ?
Donc c'est un peu délicat, mais effectivement on est en contact avec des PME qui travaillent sur le secteur. Bon, il est vrai que comme le marché est pas très important et qu'on va électrifier progressivement, le changement est difficile à envisager par ces entreprises. Et on voit que les gens ont beaucoup de mal de se dire on va commencer à se diriger vers de nouvelles technologies.
Il faut toujours être au pied du mur pour faire les choses.
Je pense que c'est un peu ça, malheureusement.
Alors c'est vrai qu'en France, on a connu le Minitel, on a connu le Secam, qui nous ont quand même mis à un moment donné dans l'ornière. Est-ce que là, un jour, on aura de l'avancée ou de l'avance par rapport aux idées pour avoir le coup d'avance qui permettrait de réussir davantage ?
Bon, on a quand même une avancée importante sur les véhicules tout électriques, puisque Renault, qui propose déjà à la vente certains véhicules tout électriques, et je pense le premier constructeur à proposer une gamme vraiment en grande série. Bon, on a un certain nombre d'interrogations par rapport à ça, mais la stratégie de Renault me semble intéressante sur ce point, et on sent que effectivement les équipementiers commencent à se poser des questions, ne serait-ce que par rapport à ces futurs véhicules, que ce soit en termes de composants électriques ou de systèmes de recharge sur le réseau électrique. Et on a une compagnie à Douai qui travaille de plus en plus sur les chargeurs électriques. Donc ça commence à frémir, et peut-être que cette stratégie d'aller plus loin que les véhicules hybrides très vite va permettre d'avoir cette avance-là.
Donc là, effectivement, on va quand même devoir y aller. Est-ce que ces freins qui ont été faits à ce développement en France, c'est aussi le fait de lobbying ?
Il est clair qu'il y a un lobbying automobile très fort, parce que l'automobile représente un nombre important d'employés, donc de salariés, et que la philosophie de travailler beaucoup sur le diesel a été très très importante et reste encore aujourd'hui une priorité dans les axes de recherche de ces grands groupes, même s'ils commencent vraiment à se diversifier. Donc ça n'a pas joué vraiment en notre faveur.
En plus, bon, il y a quand même une polémique sur le diesel en termes de santé publique.
Oui, c'est indéniable, et je dirais même que c'est un peu caché en France, parce que le lobbying automobile est très très fort, quoi.
Est-ce que du côté des universités, justement, on se penche sur la recherche en termes de retombées, sinon économiques, du moins écologiques, de toute cette industrie lourde qui se fait en France et de ses applications ?
Il y a certains groupes de travaux qui se sont... des réseaux qui se sont montés. Nous, on travaille beaucoup plus sur les aspects technologiques, comment arriver à améliorer tout ça, et en particulier... bon, notre réseau national, c'est 7 industriels et 10 universitaires, 10 laboratoires universitaires sur toute la France, pour essayer d'avoir des gains suffisamment importants, parce que cette technologie hybride, elle va coûter forcément plus cher, c'est ce qu'il faut bien comprendre. On a la technologie classique plus la technologie électrique avec des batteries qui coûtent cher, l'ensemble va coûter plus cher. Le frein aussi à la vente, c'est un frein économique. Est-ce que l'usager va être prêt à payer plus cher ? Donc nous, on pense qu'il payera plus cher si les gains en consommation et les réductions de pollution est beaucoup plus significative qu'à l'heure actuelle.
Il pourrait aussi y avoir, mais alors là, on touche l'économie directe du pays, des réductions, des aides favorisant le changement ou le transfert de technologies ou de véhicules.
Il y en a déjà. Pour l'achat de véhicules électriques ou hybrides, mais je pense qu'ils ne sont pas encore assez significatifs pour aider cette transition. On constate qu'un certain nombre d'opérations, par exemple Autolib à Paris, de véhicules mis à disposition électriques, ou Autobleu à Nice, ont des résultats très encourageants et même au-delà des espérances, qui fait penser que, contrairement à l'idée reçue, les usagers pourraient changer d'usage plus vite que prévu.
Alors, c'est le principe, essayer, c'est l'adopter, on peut dire ça.
Oui, tout à fait.
Est-ce que des villes, j'allais dire écolo, entre guillemets, ou dirigées par des gens qui ont une certaine conscience de l'écologie, tout au moins, pourraient appuyer un partenaire à implanter donc une gamme de voitures à l'essai pour justement faire découvrir ces possibilités.
Donc il y a déjà des expériences qui sont menées, bon, par exemple à La Rochelle, depuis un certain nombre d'années sur des véhicules électriques. Bon, il y a Autolib, je pense que c'est une expérience très importante. Il y a beaucoup de véhicules à Paris, ça va continuer à se déployer, je pense que c'est dans les 3000. Avec une idée aussi, c'est de mettre des stations de recharge pour ces véhicules de location. Mais la ville de Paris a décidé de mettre 5 stations de recharge pour dédiées à cette opération, plus une 6e pour les usagers qui auraient un véhicule électrique. Donc profitez d'un peu de ça. Pour sensibiliser le public, je pense, parce que, comme vous dites, l'essayer, c'est l'adopter. Et puis, aller vers des infrastructures qui seraient beaucoup plus ouvertes que la location.
Voilà, donc on l'a bien compris, au-delà de la production, il y a tout un environnement à mettre en place, qu'il soit psychologique ou technique, hein, avec ses bases de rechargement, avec tout ce qu'on n'a pas l'habitude de faire encore, puisqu'on est sur des systèmes. Alors, je ne sais pas s'ils sont définitivement périmés. Est-ce que, par exemple, les voitures au gasoil sont finalement condamnées ?
À terme, oui, parce que, d'une part, ils ne fonctionnent qu'avec des ressources fossiles, de l'essence, du diesel. Donc on sait que dans les années 2040, on va avoir d'énormes problèmes d'approvisionnement. Donc progressivement, on va avoir moins de pétrole et donc moins de possibilités de faire fonctionner ces véhicules avec ce type de carburant. Donc il faut vraiment préparer maintenant. Et aussi, en termes de pollution, ça c'est très net, on le sait. Et aussi, il faut savoir que ce type de véhicule a un rendement énergétique qui est très faible, c'est de 30%, c'est-à-dire que quand vous roulez avec votre véhicule, vous utilisez 30% de l'énergie au maximum pour faire bouger votre véhicule, et il y a 70% de l'énergie qui est perdue en chaleur. Donc la conversion de l'énergie, le carburant en énergie mécanique, est un très très mauvais rendement. Et quand on fait des cycles urbains, on tombe à 10%. Ça veut dire qu'il y a 90% de l'énergie qui part en fumée, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est une technologie qui est très consommatrice et très polluante. Pour prendre un exemple sur le véhicule électrique, lui, son avantage, c'est d'avoir une conversion avec un rendement de 90%. Ça veut dire qu'il y a 10% de perte seulement. Le gros problème, c'est le stockage de l'énergie. Dans un réservoir de carburant fossile, on stocke à peu près 10 fois plus d'énergie que dans le même volume de batterie. Donc, bon, des avantages et des inconvénients. Et une batterie, il faut beaucoup plus de temps pour la charger, plusieurs heures, au lieu de charger un réservoir en plusieurs minutes. Donc, c'est pour ça qu'à une époque, on ne se souciait pas des ressources pétrolières ou de la pollution. Cette technologie a pris le pas devant l'électrique. L'électrique existait dans les années 30, il y avait encore des véhicules électriques. Ça a pris vraiment le pas dans les années 30. Et maintenant, on est obligé de revenir en arrière parce que les ressources pétrolières, on ne les a plus, et parce que la pollution devient un point très critique.
Alors c'est vrai que ces batteries, il faut les recharger, mais elles ont aussi une durée de vie limitée.
Donc là, il est clair qu'on a un certain nombre de travaux à faire pour améliorer la durée de vie, avec peut-être des nouvelles technologies de batterie. Donc il y a des organismes comme le CEA en particulier qui travaillent sur des nouvelles technologies pour stocker d'une part plus d'énergie dans un volume réduit, donc augmenter l'autonomie, et d'autre part augmenter la durée de vie. Et on travaille aussi, en particulier à Lille, sur l'association de batteries avec d'autres technologies de stockage, ce qu'on appelle les supercondensateurs, qui permet d'éviter de trop solliciter les batteries, tout en ayant les mêmes performances, et donc d'augmenter la durée de vie de la batterie. Donc il y a beaucoup de travaux à l'heure actuelle sur ces problématiques.
Alors, il y a des systèmes qui permettent, alors je ne sais pas si c'est pour les trains ou d'autres véhicules comme ça, de transformer une part de l'énergie déployée en freinant, en restockant de l'énergie sous forme d'électricité.
Oui, en fait, tous les véhicules électriques récupèrent l'énergie au freinage. Donc ça, c'est une des caractéristiques aussi de l'électrique, outre son très bon rendement, c'est d'avoir des machines réversibles. Donc soit en fonctionnant un moteur, on transforme l'énergie électrique en énergie mécanique, soit un générateur. Les générateurs dans les centrales, c'est ça, c'est les mêmes machines que l'on fait tourner pour reproduire l'énergie électrique. Donc dans un véhicule où il y a un moteur électrique, forcément, on peut récupérer de l'énergie au freinage, ce qui peut être de l'ordre d'une vingtaine de pourcents. Donc c'est pas du tout négligeable.
Alors, les trains, on imagine bien qu'ils sont électriques parce qu'il y a des lignes électriques qui amènent cette énergie. Pour les camions, ça va être quand même un autre problème.
Oui, on a quelques expériences en particulier en Corée avec des lignes dans les autoroutes pour essayer d'alimenter directement des véhicules. Alors, c'est pas des poids lourds, mais c'est des véhicules. Mais je pense que là, il faut être raisonnable. Ça n'a pas forcément d'avenir parce que développer des infrastructures très lourdes sur des distances très importantes, ça risque d'être très délicat et on va perdre beaucoup plus d'énergie à amener l'électricité au point de distribution qu'autrement, sachant qu'en plus ces technologies de transfert de l'énergie mobile ont un rendement très faible. Donc on retombe un peu sur les inconvénients du véhicule thermique. Donc on perd beaucoup d'énergie pour bouger le véhicule. Par contre, il y a certaines personnes qui pensent que sur les villes, puisqu'on a déjà beaucoup d'infrastructures électriques, on pourrait avoir ce type de fonctionnement avec des véhicules qui, sur des voies dédiées, pourraient collecter de l'énergie.
On pourrait bien sûr imaginer politiquement favoriser de tels systèmes.
Oui, sachant qu'il y a déjà des politiques, si on prend Londres, on a une politique incitative très forte, puisque pour rentrer dans Londres, il y a un droit de péage pour les véhicules thermiques, mais pas pour les véhicules électriques. Donc il y a un certain nombre de villes qui s'organisent pour favoriser l'émergence de ce type de véhicules.
Les JO pourraient très bien avoir un effet collatéral de ce type-là pour la France.
Alors, il s'avère que j'ai été en Chine juste après les Jeux Olympiques et il y a eu une expérience très très forte sur les véhicules électriques et les véhicules hybrides en Chine. Donc je pense qu'il y a eu à peu près 300 véhicules électriques, hybrides ou piles à combustible qui ont été prêtés par des constructeurs chinois aux organisateurs des Jeux Olympiques. Ça a duré un mois parce qu'il y avait les Paralympiques, où ils ont collecté beaucoup de données. Et suite à cette expérience très positive, l'État chinois a dégagé de l'argent pour 10 villes pilotes, avec, je pense, un millier de véhicules électriques dans chacune des villes pilotes. Donc peut-être qu'effectivement, on pourrait avoir sur Londres, sur l'Angleterre, mais aussi de manière collatérale sur la France, une incitation forte, parce que l'image de marque des Jeux Olympiques est très importante et l'énergie propre pourrait être aussi un vecteur.
Mais merci Monsieur Alain Bousquerolles pour toutes ces précisions, pour ces grands chantiers d'avenir.
Un bon merci. Hein.